une scène vivante entre production militante et engagement musicaux. Alors il y a un petit changement de programme parce que Fabien va parler en premier alors qu'il n'était pas prévu qu'il parle tout de suite. Nous aurons donc dans un premier temps Nous aurons donc dans un premier temps on va te laisser la place hein, on va se pousser une communication donc de Fabien, itinéraire d'un chercheur do it yourself dans les mines punk de Lorraine. Alors tu as dit ce matin que tu voulais pas spoiler ce que tu avais à dire, donc on va te laisser nous livrer la substantifique moelle de ton approche. Et ensuite Philippe Gonin. Alors je disais juste pour introduire Fabien qui est enseignant chercheur à l'Université de Lorraine, je lui disais ce matin que j'avais trouvé assez fabuleux il y a 3-4 mois de ça, on jouait à Caen avec Arnaud Futur, avec les Shérifs, et puis je regarde sur le stand de merch, je vois le livre de Fabien 1. C'est quand même assez inhabituel de voir des bouquins de scientifiques sur du merch entre les t-shirts, ma petite entreprise punk, etc. Donc je lui faisais un retour et je lui disais que finalement c'était assez rassurant de voir que la production de connaissances pouvait quand même percer et être accessible directement sur le terrain, revenir finalement à ceux qu'elle concernait en premier. Et tu me disais que bien souvent, c'est eux qui lisaient vraiment les livres. Et c'est plutôt aussi quelque chose d'assez rassurant. Voilà, bah écoute, je te laisse la parole pour une intervention de, c'est combien, 15-20 minutes ouais. 15-20 minutes. Voilà.
Ok. Donc, je prends le micro gris cette fois-ci. Je les aurais tous utilisés, c'est bien. Donc, effectivement, moi, je suis ravi que... que mes bouquins évidemment soient présents sur les tables de merch des musiciens. J'ai appris aussi que ces bouquins servaient beaucoup dans certaines ZAD, à Notre-Dame-des-Landes et puis à Bure. Et donc ce que je trouve tout à fait remarquable, c'est que au moins ils les lisent. Pourquoi ils les lisent et pourquoi je le sais? Parce que justement ils ne m'invitent pas à venir les commenter comme c'est le cas quelquefois hein. Donc où je suis invité par des gens qui n'ont pas lu le bouquin et qui me demandent de faire un résumé public. Ça leur fait une économie de lecture. Et donc, je suis ravi, effectivement, quand les bouquins sont lus. Et donc, pour revenir un peu au sujet, évidemment, qui m'a été demandé, revenir un peu sur mon parcours, eh bien, il faut savoir, et je l'ai effectivement dévoilé un peu ce matin, hein, j'ai commencé donc à faire des études en sciences de l'éducation, puis en sociologie, hein. Donc l'idée, c'était de trouver une thématique hein, qui puisse cadrer à la fois avec mes attentes en tant qu'étudiant et avec les exigences académiques. Et donc je me suis dit que je pouvais concilier finalement la passion que j'avais pour la musique, le rock en particulier, avec cet exercice académique. Et j'ai commencé par un mémoire de maîtrise. Puis ensuite, je me suis engagé dans une thèse de doctorat en sociologie. Hein. Et il faut savoir qu'en parallèle, je menais une carrière de musicien amateur dans un groupe local. Hein. Donc je l'évoquais tout à l'heure, le groupe s'appelait Metallica. Je déconne. Et... par ailleurs, j'étais également critique dans un fanzine, Kérosène, qui a été évoqué à plusieurs reprises. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été sollicité par d'autres fanzines, puis par la presse nationale. J'ai écrit pendant un temps dans Noise Magazine, qui s'appelle New Noise maintenant. Et puis, la recherche académique... dans le cadre de ma thèse de doctorat, m'a conduit à mener à ce qu'on appelle, hein, dans le jargon sociologique, une observation participante. C'est-à-dire que, du coup, j'étais un acteur impliqué hein, et je me cantonnais pas simplement à mon activité de musicien. J'essayais d'être présent un peu sur tous les fronts, hein, donc le front de l'écriture, et puis je travaillais dans un certain nombre d'associations. Donc je tenais le bar assez fréquemment, ou alors je faisais la porte, la billetterie, et puis malgré ma carrure, quelquefois même le service d'ordre. C'est étonnant, hein, mais... oui, c'est parce que je suis grand. Mais c'est tout. Hein. Il n'y a guère que ça. Et donc, Ce qui s'est dégagé très très rapidement, c'est que à mesure que je rencontrais des gens, à mesure que je les interrogeais, à mesure qu'ils me racontaient un peu leur parcours, leur trajectoire, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de particulier au sein de la scène punk. Il y avait quelque chose, une régularité, il y avait quelque chose qui se dessinait véritablement au sein de cette scène, qui unifiait cette scène, c'est ce rapport au do-it-yourself, cette volonté d'entreprendre coûte que coûte, indépendamment des moyens disponibles. Et il y avait quelque chose qui était de l'ordre de je fais envers et contre tout, malgré les résistances, malgré les écueils, parce que, justement, je suis porté par une passion qui, véritablement, est de nature à stimuler l'action. Et donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser, là. Et j'ai essayé de d'identifier ce qui pouvait, effectivement, porter ces gens à l'action, à vouloir faire de la musique coûte que coûte, à vouloir produire des fanzines, à vouloir organiser des concerts. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose là de l'ordre de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui avait à voir avec cette volonté d'entreprendre. Alors, pas nécessairement au sens entrepreneurial où on l'entend, où l'entendrait Emmanuel Macron aujourd'hui, mais au sens où on a envie de participer à une activité collective, à une dynamique collective qui est fédératrice, qui est stimulante, qui donne de l'énergie et qui produit des réseaux, de la sociabilité. Et donc ça, c'est quelque chose qui revient et qui revenait assez fréquemment. Alors ce qui m'a vraiment stupéfié, c'est que lorsque j'ai entrepris cette enquête, il se trouve que en Lorraine, c'était la première enquête du genre. Donc c'était une enquête qui reposait en partie sur des questionnaires, mais aussi sur des entretiens, je vous l'ai dit, sur l'observation participante. Et donc ce qui m'a stupéfié, c'est que, en règle générale, lorsque vous menez une enquête par questionnaire, vous pouvez vous attendre à un retour de l'ordre de 15%. Là, j'ai eu un retour de plus de 70%, c'est-à-dire que les gens étaient vraiment très très contents de participer à l'enquête. Et certains venaient sonner chez moi, je veux dire, en semaine ou alors le week-end, pour me demander si vous pouvez bien participer à l'enquête. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi tout à fait extraordinaire. Vous n'allez même pas chercher vos informateurs, c'est les informateurs qui viennent chez vous. Donc ça, c'était quelque chose qui était tout à fait signifiant. Et souvent, c'était des punks, justement, parce que ces gens-là ont véritablement des compétences, ils ont gagné des compétences, un savoir-faire, un savoir-être qu'ils ont envie de partager. Et donc, de fil en aiguille, donc j'ai rencontré des gens comme Eric, j'ai rencontré des gens comme les Flying Donuts, enfin, quantité d'acteurs de la scène locale qui m'ont aidé à mieux comprendre cette dimension entrepreneuriale, ce qui m'a conduit à travailler plus spécifiquement la notion de « do it yourself », puisque ça, c'est quelque chose qui est véritablement fondamental au sein de cette scène musicale et qui est une caractéristique de l'authenticité même de cette scène. Puisqu'il y a une manière très très simple finalement de distinguer les vrais punks des faux punks, puisque ça c'est quelque chose qui agite constamment le landerneau punk, c'est ce rapport à l'authenticité, et cette authenticité elle se caractérise par la capacité des individus à faire les choses par leurs propres moyens. Au sens où finalement il s'agit justement d'éviter au maximum de travailler avec les institutions, il s'agit de trouver les ressources ailleurs, même si évidemment ces acteurs-là ne se distancent jamais finalement d'aller sonner à toutes les portes. C'est-à-dire qu'en général, ils font feu de tout bois. Donc c'est la question des ressources qui est posée. Et lorsqu'on prend l'exemple des Flying Donuts, on sait très bien qu'ils ont demandé un certain nombre de subventions aussi, ils ont bénéficié d'un certain nombre de soutiens, ils ont participé à des concours, Festival des Eurockéennes, qu'ils ont remporté. Pardon, comment ça s'appelle? Les tremplins, voilà, c'est le mot exact, merci beaucoup. Les tremplins, etc. Et donc, sont des gens qui finalement s'interdisent rien, et parce qu'ils s'interdisent rien, ils sont victimes ou sujets de certaines critiques aussi, sujets à certaines critiques, compte tenu de ces critères d'authenticité qui sont mobilisés en permanence au sein de cette scène musicale. Alors pour les uns ça passe, pour les autres ça passe pas. Alors des fois on leur reproche d'être des faux punks, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui, on pourra y revenir tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très très marqué aussi au sein de cette scène musicale. Hein. Ce rapport au do-it-yourself, il est absolument essentiel. Et après évidemment, chacun va y aller de sa propre définition du do-it-yourself, puisque là c'est une question de gradient toujours. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut accepter, d'autres qui sont totalement intolérables. Et puis, on a des effets, des discussions à rallonge qui sont favorisées, évidemment, par les réseaux sociaux où chacun y va de son commentaire. Et on va, justement, donner des bons points, des mauvais points à des artistes ou alors des actions. Et donc, ce sont ces choses-là que j'ai essayé de déconstruire, d'identifier dans un premier temps, puis de déconstruire ensuite. Et donc, en travaillant ce registre... Do It Yourself, je me suis aperçu qu'il y avait une autre spécificité au sein de cette scène punk qui était liée à la question environnementale. Puisqu'il se trouve que, à ma connaissance, il n'y a absolument aucune autre scène musicale qui est aussi versée dans les questions politiques ayant trait à la dimension environnementale. C'est-à-dire que lorsque vous suivez un peu cette scène punk, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à considérer qu'on puisse parler de la scène punk de manière générale, parce que c'est une manière d'essentialiser. C'est-à-dire qu'on fait un rabattement, moi, à mon sens, au sens où cette scène punk, elle est extrêmement diversifiée. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de normes, tout un ensemble de valeurs qui, certaines fois, sont en phase et d'autres fois, qui se heurtent parce qu'elles sont incompatibles. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que je plaide, moi, pour qu'on travaille plutôt à partir de la singularité de ces scènes musicales, puisqu'il me semble qu'il y a une différence entre le skate-punk, l'anarcho-punk. Il y a des normes, des valeurs qui sont à chaque fois extrêmement différentes et ça mérite, là, précisément, d'être interrogé à chaque fois. Enfin, quoi qu'il en soit, donc, je vous disais que travailler sur le do-it-yourself, ça m'a conduit ensuite à travailler sur cette dimension écologique au sein de la scène punk, puisqu'on trouve des réflexions très très fortes qui sont portées, et en particulier, il faut le souligner aussi, par la scène anarcho-punk, qui est à mon sens la plus avancée sur ces questions, des réflexions qui émergent dès la fin des années 1970 sur la question animale, sur le rapport à l'alimentation, sur le rapport à la technologie, sur le rapport à la mobilité, sur le ruralisme, puisqu'on observe aussi un néo-ruralisme punk, ce qui est tout à fait singulier aussi, qui mérite là aussi d'être interrogé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Et on voit à travers justement cette trajectoire que finalement, lorsque vous tirez sur une ficelle de la scène punk rock, vous apercevez très très rapidement qu'il y a une richesse insoupçonnée derrière cette scène musicale, puisqu'il y a quelque chose d'extrêmement constructif, d'extrêmement positif. Et donc, les clichés New Future, et pour les scènes en tout cas que j'ai observées, elles ne font absolument aucun sens. Et donc, du coup, elles sont même totalement inverses à la dynamique impulsée par ces gens qui portent une réflexion critique sur la société, qui portent une réflexion critique sur la manière dont sont administrées les choses, les humains, les biens, les animaux, la manière dont les gens se déplacent, la manière dont les gens s'alimentent. Et donc, c'est quelque chose qui est central au sein de certaines scènes et il me semble que ça vaut le coup de s'y pencher. Voilà. Donc, ce que je vous propose, à la lumière de ce bref résumé, c'est de me poser un certain nombre de questions qui vous intéressent, ce sera peut-être plus simple. Si ça vous intéresse, évidemment, je ne sais pas. Oui.
Très bien. Ouais. Merci Fabien. Enfin, effectivement, on peut peut-être, comme tu as été très, très bref, très concis dans ton propos, on peut peut-être se permettre d'avoir un bref intermède, discussion, question. D'habitude, on les réserve pour après les deux communications, mais voilà. Alors, je crois que Solveig voulait intervenir sur la dimension historique de ton propos, enfin, contemporaine ou historique.
Oui, moi, je voulais juste souligner qu'en fait, donc tu dis, et j'entends très bien que il faudrait parler de scène punk au pluriel, parce qu'il n'y en a pas une qui est unie, mais je pense que c'est parce que c'est ce qu'on expliquait ce matin, en fait, il y a une coexistence de différentes scènes historiques parce que cette scène dont tu parles, qui est effectivement écolo, enfin qui met en avant des thèmes écologiques, vegan, etc., elle coexiste quand même avec une autre scène qui est plus âgée, où les thèmes, pour le coup, du destroy, du no future, sont extrêmement présents. et souvent en mauvais entendement. C'est-à-dire que nous, on a eu des journées d'études où il y avait des représentants des deux scènes qui ne s'aimaient pas du tout, qui ne pouvaient pas se blairer, parce que chacun, effectivement, récupérant la question de l'authenticité punk, eux étaient punk parce qu'ils avaient une crête et les autres, ben, pas du tout parce qu'ils avaient des dreads, par exemple. Et donc, c'est quand même une vision de scène contemporaine que tu nous présentes, pas une vision. Ben, en 76, il n'y a pas de punk écolo.
Donc il faut savoir qu'à partir de 1976, il y a une scène qui émerge à travers un groupe qui s'appelle Crass et qui s'installe...
Oui, en Angleterre.
En Angleterre, oui. Ah, vous parlez de la France,
oui. Oui,
oui, ah,
on est sur la scène
pendant France. Ah non, non, France, mais là, oui, oui. Ah, pardon.
Oui, Crass, oui, Crass oui, oui. Va être okay. Promoteur d'une parole.
Mais... Ok, oui, oui, oui. Je pensais qu'on élargissait un tout petit peu le propos. Non, oui, non, 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 pas par rapport à la France. Si oui.
Alors, mais
pas
par rapport à la France, du coup, précisons.
Oui, oui, oui. Non, 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 d'accord, à ce moment-là, je bats ma coulpe et je ferme mes gueules.
Non, mais c'est intéressant. Alors, ta remarque, par contre, sur la segmentation de la scène punk et la pluralité est tout à fait recevable, mais sur une scène très contemporaine en France, hein, parce qu'il y a quand même cette... quand on regarde... Alors, sur la question de la scène punk en France, effectivement, bon, ce que tu évoquais, le No Future... Bon, oui, ça a du sens, hein, pendant longtemps, quand même. Hein. Ouais. Et ce renversement, c'est-à-dire qu'on est passé d'un No Future à quel futur veut-on construire, oui. Et ça serait bien que tu nous précises... les personnes enquêtées, finalement, à quel moment tu fais ton enquête et ça concerne des segments de vie qui vont de camp à camp, les punks que tu évoques dans ton enquête, ceux qui se réclament bon, de tel ou tel, sont sur quelle année tu es en fait?
C'est très variable, hein, puisque en fin de compte, pour ma thèse de doctorat, en fait, je me suis intéressé au monde du rock en général. Donc ça intègre, ça va du punk au metal, à la pop, enfin bon, tout ce qui appartient à cette grande famille générique qui est le rock, quoi. Voilà, donc sans distinction. Après, finalement, m'apercevant qu'il y avait des spécificités qui étaient propres à ces genres musicaux, évidemment, je me suis plutôt focalisé sur ces genres musicaux qui me semblaient les plus riches, les plus porteurs, quoi, pour la réflexion. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai élargi, et évidemment, je suis sorti du caractère strictement français, lorrain déjà, et strictement français pour aller aux sources. Et donc là, pour les sources, la scène hardcore de Washington DC, par exemple, c'est la scène straight edge aux États-Unis aussi. Donc là, je suis véritablement allé au-delà du territoire.
Ouais. Après, tu as entièrement raison sur Crass, hein, qui avait une posture d'ailleurs assez unique à l'époque et qui crachait à la gueule de tous les autres punks en disant bon, faut passer à autre chose. Hein. Donc là, là-dessus,
oui, non, mais j'avais
mais
pas compris la question.
Mais ça reste un cas d'école quand même, hein, historiquement parlant, parce qu'on était. Ouais.
Moi, j'ai une autre question, et ça reste vraiment, en fait, est-ce que ça s'associe à un mode de vie qui est plutôt rural et pas urbain, comme était au début quand même le punk, qui était une culture urbaine? Est-ce que, justement, le retour à la nature, etc., on a une collègue qui travaille sur les zadistes, et en fait, genre sur des zades à Fraissinous, dans l'Aveyron, et qui dit qu'il y a effectivement plein de punks, écolo, baba, enfin, qui sont... est-ce que ça s'accompagne, en fait, d'un départ vers la campagne, des punks bâtisseurs, tout ça?
Oui, bah là, c'est intéressant, parce que là, je peux revenir sur l'exemple des Flying Donuts, parce que là, du coup, j'essaie de caractériser un peu leur réseau, et je me suis aperçu que, évidemment, leur réseau, il est constitué, alors là, c'était des centaines de personnes, à travers la France, précisément, donc qui leur avait apporté un soutien à un moment, parce que, comme je vous l'ai dit hein, ce matin, j'ai pu revenir sur toute leur trajectoire, donc j'ai pu identifier tous les concerts, tous les endroits où ils avaient joué, et donc c'était fabuleux, quoi, parce que du coup, je me suis aperçu que les endroits où ils avaient joué, c'était pour moitié... dans les grandes villes, et pour l'autre moitié, c'était dans les bleds. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant. Donc ça voulait dire que, parce que ça m'a interpellé, parce que comme un peu tout le monde, hein, je fais
ça
le rabattement.
À l'encontre de l'image,
oui, oui, oui. Non, mais c'est
villes,
ça. On se dit voilà, c'est un phénomène strictement urbain. C'est faux. C'est faux parce que pour le coup, hein, les organisateurs de ces concerts, ce sont des habitants du milieu rural. Et donc du coup, il y a véritablement l'existence d'une scène punk dans des villages, bah, un peu comme ici. Hein, donc il y a une poignée de gens. Comme ça. Donc, à Metz, ça a été rappelé ce matin, c'est 10 personnes. Et donc, la France, elle est marquée, là, justement, par la présence de petits groupes, comme ça, de gens qui sont extrêmement actifs, extrêmement dynamiques, et qui participent à un même amour pour le punk rock. Et cet amour, il se traduit par, bah, justement, des échanges, des l'organisation de concerts, etc. Et effectivement, ça, c'est un phénomène qui est aussi rural. Ouais. Et donc on le voit, hein, parce que là c'est devenu un genre en soi aussi, le folk punk par exemple, qui est porté par des urbains aussi, mais aussi par des gens qui sont des amoureux de la nature et qui font justement un retour à la nature, qui s'installe à la campagne par choix et par dégoût aussi de des grandes villes.
Et alors nous, ce qui nous interpelle, c'est que ces punks-là se désignent comme punk, parce qu'en fait c'est des babas, enfin l'idéologie qui porte. Quand tu vois qu'au début le hippie c'est l'ennemi absolu. Ouais.
Oui.
Il se désigne comme tel.
Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire que là, il y a eu une sorte de glissement. C'est-à-dire qu'on peut se réapproprier un certain nombre d'attributs, mais tout en d'attributs, on va dire punk, mais tout en adoptant un mode de vie qui s'apparente plutôt à un mode de vie hippie, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de néo-ruralisme. Et donc, alors là, en France, on sait qu'il y a des villages entiers qui sont colonisés par des punks, à La Valette en particulier. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont écrites sur ces petites expériences d'autonomie qui se rapprochent des zadistes un peu, mais sur un autre mode. Mais donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on sait que la musique punk est effectivement fédératrice pour ces gens. Et donc on observe des phénomènes comme ceci. Alors celui qui m'a semblé le plus intéressant, encore une fois, on sort du cadre strictement français, c'est dans le Manitoba, où là on a une communauté de jeunes gens qui sont des anarcho-punks et qui font un retour à la nature, un retour au pastoralisme, un retour au maraîchage. Et donc ils se lancent dans l'agriculture biologique et ils organisent chaque année une manifestation où ils se retrouvent tous. Et donc, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que, à la fois, ce qui agite le Landerneau punk, c'est des questions autour de l'alimentation, par exemple. Beaucoup d'entre eux deviennent véganes. Et donc, là aussi, il y a quelque chose qui devient intéressant à observer. C'est quoi ? C'est que le véganisme, il va toujours plutôt toucher les urbains. Et ce n'est pas du tout le cas pour les gens qui sont en milieu rural, pour la bonne et simple raison que, eux, ils habitent dans des endroits où il y a des loups, où il y a des ours. Voilà. Et donc, ils se baladent avec des flingues dans le dos parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent être potentiellement menacés. Et ils savent qu'il va falloir se battre aussi contre l'invasion de certains animaux qui vont détruire leur récolte, etc. Et donc, il y a un autre rapport. Et donc, ils ne peuvent pas défendre une éthique végane. Et donc, du coup, il y a une opposition aussi qui se fait, encore une fois, sur des modes comme ceci. Et c'est en ça que ça devient intéressant pour l'analyse. Mais on sort du cadre français.
Oui, mais bon, ceci dit, alors nous, on avait organisé une journée qui s'appelait Punk des villes, Punk des champs, parce qu'on pressentait bien, si tu veux, que on a parlé de déconstruction ce matin, que cette image du punk urbain, ça collait pas. Hein. C'est un discours qui pourtant reste assez dominant. Et on s'était rendu compte de deux choses, parce qu'il y a quand même deux choses qu'il faut bien séparer. C'est que, un, effectivement, le punk en France ne concerne pas que Paris ou les grandes villes. On s'aperçoit que tout de suite, il y a des punks partout, il y en a au pied des Pyrénées, il y en a partout, il y en a dans... Donc ça, c'est, disons, en termes de territorialisation et de répartition. Mais en revanche, il y a une deuxième dynamique, alors que tu évoques, mais qui est plus tardive, qui est une espèce de retour à la terre et de néo-ruralité, où, oui, alors il y a une espèce de révolution du punk, où on réinvestit au fond des comportements qui étaient ceux des babacools et des communautés hippies à un moment donné, et voilà. Alors c'est assez fascinant, c'est ce qu'évoquait Solveig, parce que quand même, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, le hippie, c'était l'ennemi haï. Hein. Un bon hippie est un hippie mort. C'était le slogan quand même des punks. Hein. Donc c'est assez fascinant de voir à quel point on est, quand je parle de révolution, sur le retour sur une... Voilà. Et quand je disais ce matin qu'il y a, sur 40 ans, une réinvention du punk, je pense qu'il faut le considérer aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire de quelle manière, finalement, les néo-punks sont... Enfin, les nouveaux punks sont des gens qui réinvestissent des formes ou des postures qui ont pu être celles des aînés de la contre-culture hippie à un moment donné, des communautés. Bon, alors, après, l'histoire se répète pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais il y a quand même quelque chose d'assez incroyable dans cette recomposition hein, des communautés autour d'idéaux, etc. Et moi, je vois juste d'un mot, je termine sur un groupe que je connais bien, qui est mis à Bordeaux Strychnine. Entre le Strychnine de 76, qui est des thèmes urbains, etc., et l'album qui est sorti en 2010, où dans les textes, il y a des textes qui sont finalement écolos. On voit bien le cheminement, même des anciens, hein, sur ces aspects-là. Voilà, je te redonne.
Oui, simplement, juste pour compléter, si tu veux bien. Oui, ce que je veux dire, c'est que si on reprend l'exemple de Crass, il faut savoir que les membres de Crass, au départ, c'était des hippies hein, qui sont devenus punks. Et donc, c'est quelque chose qui va dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire que les punks qui peuvent devenir potentiellement hippies, les hippies étaient punks, enfin, sont devenus punks aussi par le temps.
On a montré de Montmerson.
Oui, oui. Encore des cheveux. Oui, non, mais c'est ça.
C'est pas une génération spontanée. Là,
absolument.
Bon, les punks, à un moment donné, ils ont coupé leurs cheveux. La rupture, c'est peut-être.
Et du coup, Fabien, on en profitera pour t'inviter parce qu'on fait une journée punk et alimentation l'année prochaine à Tours, à la Maison de la Gastronomie. Et justement, non, mais c'est passionnant de voir comment on passe de la nourriture de la défense au véganisme. C'est quand même sidérant. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Allez-y.
Oui, moi j'aurais une remarque. Ça concerne justement ce que vous venez de dire. En fait, ça correspond aussi à une évolution de la société. Et donc, les punks, au démarrage, ils sont dans une prise de position par rapport à cette société, avec les implications du départ. Mais aujourd'hui, il y a d'autres enjeux et d'autres implications dans cette société, effectivement, qui fait que ça rejoint un mouvement écolo, etc. En fait, après, on arrive à l'antagonisme, effectivement, contre les hippies, et puis du coup, on le devient. Mais c'est un peu l'évolution de la société qui se transmet dans tout ça.
C'est ce qu'on a essayé d'évoquer, en tout cas, sur ce qu'on a appelé la troisième génération, toutes les tendances altermondialistes, etc. Évidemment, évidemment. Et les mouvements de résistance s'agrègent à ces tendances-là, qui sont des... Mais c'est quand même, néanmoins, d'un point de vue historique, assez intéressant de regarder comment on est passé de cette désespérance, l'absence de futur, à quelque chose qui est construisons un autre futur, ou comment on peut faire pour... pour aller faire un pas de côté, toujours, mais d'une autre manière.
Non, mais c'est ça, parce que finalement, ces mouvements musicaux vont s'approprier les grandes questions qui sont des questions contemporaines. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus raisonner indépendamment des crises écologiques. C'est vraiment quelque chose qui structure, enfin qui est supposé en tout cas structurer la pensée. Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est central pour la survie des humains et de la biodiversité au sens large. Et donc, on ne peut plus faire l'économie d'une réflexion là-dessus, même si on continue de le faire d'une certaine manière. Et donc, on sait qu'il y a des milieux qui sont plus... propice ou plus fertile pour porter des réflexions comme celle-ci.
Et du coup, Fabien, j'ai une question. Hier, alors je cherchais pour illustrer le PowerPoint quelque chose sur justement le vegan, etc. Et les entrées hardcore vegan étaient très fréquentes. Pourquoi il y a un lien entre le vegan et le hardcore spécifiquement ? Parce que quand tu tapes sur Google punk vegan, tu trouves très peu de choses. Par contre, quand tu tapes hardcore vegan, là, tu trouves des tas de choses.
Oui.
Et pourquoi ? T'as une idée ?
Justement, déjà, le hardcore, c'est une radicalisation du punk. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui va émerger sur la côte est des États-Unis au départ. Et ils vont porter très très rapidement, finalement, les idées de Crass. Et ils vont porter une réflexion sur la question alimentaire. Et donc, c'est quelque chose là qui, pour le coup, est du coup beaucoup plus... y a un lien qui est plus évident, voilà, tout simplement.
Les straight edge disaient, en tout cas, c'était, je simplifie la parole, mais c'était, pour entamer la lutte, et là, il faut être en bonne santé, donc il faut se comporter, il faut vivre comme ci, comme ça. Hein. Voilà. Le discours était assez clair et assez stratégique, en fait, sur la manière de...
Mais c'était pas un rapport à l'alimentation que quelque chose qui était lié à la consommation de drogue et à la consommation d'alcool. Oui, voilà, c'est ça. La question de la santé,
elle était
complètement. Et c'est après que c'est devenu vraiment la question de l'alimentation.
J'allais dire à peu près ça par rapport au straight edge, mais surtout le vegan, ça vient du straight edge et du hardcore, des fin 80, début 90, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Et sinon, juste une remarque par rapport à ce que vous dites sur la nourriture, etc. Il ne faut pas oublier dans l'absolu que depuis 2008, plus de 50% de la population mondiale habite en ville aussi. Donc ça change beaucoup de choses au niveau sociétal et tout ça, quoi. Enfin, après, je connais pas plus.
Oui, on est même à 80% à mon avis, hein, dans les villes, hein, c'est 80% à mondial, d'accord, je parlais de la France. Hein. Attends le micro, Michel, parce que comme tu es capté...
Ah, mais c'est un micro-punk, il a plein de boss.
Quand on parle de hardcore, c'est pas du punk, hein, pour moi. C'est, à la miroiterie, j'ai vu des concerts de hardcore, il n'y avait pas de punk. Hein. Le hardcore, c'est un public bien défini. Hein. C'est beaucoup de gens qui bossent sur ordinateur. C'est des gens ingénieurs informaticiens qui bossent dans la publicité, qui sont très propres sur eux, attention. Donc, ils boivent pas, ils mangent vegan, ils sont chiants, ils sont cons, ils font même pas de table. Alors, par contre, ils vont écouter de la musique ultra violente le soir dans des concerts, hein, à faire de la violent dance, et après à nous donner des leçons à manger propre et bio et compagnie. Maintenant, si on me parle du punk, qui lui, urbain, le vrai punk, hein, je te parle, pas le hardcore à la con, vegan à la con. Bon. Si on pouvait les éradiquer, je demande au peuple un petit effort sur eux. Soyez sales, une fois dans votre vie. Maintenant, le punk qui... depuis 40 ans que j'ai vécu, par exemple, dans une capitale, dans une grande ville, par exemple Paris, voilà, qui ont vécu à Paris dans des lieux qui étaient même locataires, hein, ou bah, peu importe, chez les parents, ou même squatteurs, et qui, au bout de, bah, du temps, n'ont pas le choix et ont dû quitter... l'urbanisme, donc ces grandes villes qu'ils appréciaient tant, et de partir à la campagne, hein, avec des poules et des cochons à la con, et qui n'ont pas le choix de devenir comme des zadistes à grimper dans les arbres. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça, à l'état sauvage, en gardant leur doc et leur trait militaire. Voilà, c'est tout ce que je vois. Merci.
Du coup, Fabien, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu crois que ça s'est accompagné d'un changement de catégorie sociale, tout ça ? Est-ce que le véganisme, enfin cette génération de punk, est portée par des gens socioculturellement plus élevés, etc. ou en fait pas du tout ?
Oui, les études dont on dispose, elles indiquent que ce type de public est doté d'un capital culturel plutôt... élevé, oui. Donc c'est des gens qui ont fait des études, je veux dire, qui portent une réflexion aussi critique sur la société et qui souvent aussi sont en charge d'enfants. Et donc du coup, ils ont le souci de leurs gamins. Ils savent très bien qu'il y a tout intérêt à les élever dans des bonnes conditions, qu'on leur donne bien à manger, je veux dire, qu'ils disposent de structures qui permettent de les élever dans de bonnes conditions. Voilà, pour aller vite.
Très bien, bah écoute Fabien, on te remercie beaucoup pour cette intervention, on espère qu'on continuera à travailler.
Merci
avec
à
toi.
Vous.
Et cette notion d'entreprise, j'ai beaucoup apprécié aussi comment tu définissais, pas au sens du MEDEF, mais au sens de l'engagement dans un projet de vie, disons. Voilà, et je trouve que ça fait sens, hein, par rapport au punk évidemment. Donc merci beaucoup encore.
Merci à vous.